terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ikuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15 heures sur CIBL.
Rien de tel que Gilberto Gil pour recevoir... Est-ce que j'ai bien prononcé ça? Bref, je le saurai. Pour recevoir notre invité que nous recevons vraiment avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, qu'est-ce que le colorisme? C'est une hiérarchisation entre les noirs à peau claire et les noirs à peau foncée et plus globalement entre les personnes aux traits plus proches de l'européanité qui est la norme, entre guillemets, et celles aux traits plus proches de l'africanité, autre. Encore avec des guillemets. Le colorisme moderne a commencé avec l'arrivée des colonisateurs qui ont distribué certaines faveurs à leurs enfants illégitimes. Il fallait aussi diviser les Noirs en surnombre par rapport aux colons et affaiblir leur identité raciale. Ce que je viens de vous lire est très réducteur par rapport à la thèse ou les thèses, parce qu'il y en a plusieurs, que défend Alessandra Devulski dans ce livre « Le colorisme, métissage, nuances de couleur de peau et discrimination ». Je vous le montre à la télé. C'est un livre blanc avec évidemment l'auteur elle-même en couverture, « Le colorisme, métissage, nuances de peau et discrimination ». Alessandra Devulski est... J'ai bien prononcé « bonjour ».
Très bien prononcé, Devulski, oui, oui.
Devulski, voilà, très bien prononcé. Merci d'être avec nous. Ça faisait un moment, lorsque cet ouvrage est sorti, que j'ai dit non, il faut qu'on en parle. Parce qu'effectivement, depuis, on parle du colorisme depuis un moment. Moi-même, en face de vous, la modeste personne que je suis, a participé à une série sur... Alors, Ici Tout TV, c'est comme ça. Ouais, c'est Tout TV ou Ici Tout TV. Faut pas te mentir. Une série par Shelby et Zone 3, voilà. Et l'épisode dans lequel j'étais intervenu, c'était sur le colorisme, qui, soit dit en passant, a été récipiendaire d'un Gémeaux et tout. Pas toute la série, l'épisode, là où j'étais, moi. C'est juste pour vous dire que si vous m'invitez, vous avez des chances de gagner des prix. Donc, c'est vous dire que voilà, je suis allé parler un peu de ce colorisme, d'où ça venait, j'avais compris. Et puis récemment aussi, on sait qu'il y a un grand renfort quand même de publicité. Il y a Varda Varda Etienne qui a fait un documentaire sur le colorisme, voilà, sur Ici Tout TV aussi, en interviewant un certain nombre de femmes, voilà, sur la couleur de peau. Et votre ouvrage, Alessandra Devulski, est, pour moi, va plus loin que cette espèce d'image qu'on a. C'est là où je me suis rendu compte que le colorisme, c'est pas juste la peau, voilà, on s'éclaircit la peau, et puis voilà, c'est ça le colorisme, on s'éclaircit la peau parce qu'on veut s'intégrer. Il va beaucoup plus loin, parce que vous avez mis le focus sur le Brésil, pays dont vous êtes originaire, et où effectivement, je me suis rendu compte que c'était complètement autre chose. Alors, je vous pose la question, le colorisme, c'est quoi?
D'emblée, merci beaucoup pour l'invitation d'être ici aujourd'hui pour en parler de ça. Et je suis vraiment choyée de voir que finalement, les thèmes commencent à percer dans certains bulles médiatiques pour en parler. Parce que parler de la lutte antiraciste, c'est aussi parler du colorisme. C'est un phénomène dans des sociétés qui de plus en plus sont métisses, qui ont effectivement des mariages interraciales qui de plus en plus sont présents. Il faut se rappeler qu'en Amérique du Nord, par exemple, aux États-Unis, il y a quelques décennies, les mariages interraciales, ils étaient une interdiction. La loi états-unienne interdit les personnes de races différentes de se marier. Donc, le colorisme est d'emblée tributaire d'un système de pouvoir. Mm-hmm. Je pense que c'est la meilleure définition d'emblée pour parler de ce phénomène-là, c'est de l'expliquer collé à l'idée de distribution de pouvoir, de discipliner les réseaux de pouvoir. Donc, étant donné que le colorisme, il s'initie d'une façon systématique, rigoureuse, institutionnelle, soi-disant en passant, avec les kidnappings systématiques des Africains vers les colonies de certains pays européens, mais il aurait fallu créer un système pour discipliner, comme dit Foucault, cette masse de personnes qui étaient effectivement originales, qui s'originaient des relations, dans la plupart du temps, des relations non consensuelles, il faut se les dire, des personnes métisses. Donc, les métissages, dans la plupart des colonies, viennent des viols systématiques des femmes noires, il faut se les dire. Parce que parfois, on parle de métissage comme un truc super beau, super mignon.
Tout à fait, le lien entre les races.
Oui. Oui, un peu romancisé, il
Mais
faut se les dire.
Vous allez à l'origine et vous dites
l'origine
que non.
L'origine extrêmement violente, avec des femmes qui s'est voyé effectivement marchandisé et vu effectivement évacué de toute son humanité. Donc, c'est clair et net que quand on parle, bien évidemment, si on parle d'une façon moderne de colorisme, c'est sûr que ça nous vient une idée d'ouverture d'esprit, des personnes qui... Et j'ai beaucoup de difficultés avec les termes, les colorblind, qui n'existent pas parce que nous sommes tous immergés dans une société qui encore hiérarchise les personnes selon leurs traits. Mais l'origine du colorisme, c'est une origine violente. Il faut comprendre cette origine-là pour saisir à quel point la reproduction de ces hiérarchies sont encore nécessaires pour mettre, entre guillemets, les personnes dans certains cases. Pour dire, bon, mais certains jobs, certaines tâches, des postes décisionnels sont, entre guillemets, naturellement distribués parmi certaines communautés qui on a appris tous à penser qui avaient certains traits qui associent ces personnes-là à la compétence, à l'intelligence, à une certaine rigueur scientifique. Et les personnes noires, les personnes racisées, toujours associées à des traits qui vont l'associer au travail, qui est un travail sur les champs, un travail rural, un travail qui ne va pas demander...
force physique, en fait.
De la force physique, ne vont pas demander l'intelligence ou l'intellectualisme de ces personnes-là. Donc, ce sont des idées qui se sont reproduites pendant des siècles. Et là, on se voit aujourd'hui dans une certaine célébration de quelque chose sans comprendre que parler de la lutte antiraciste, ça veut dire aussi réfléchir comment on va distribuer les pouvoirs quand on a encore cette hiérarchisation. Cette hiérarchisation, parmi la communauté noire. Donc, je suis absolument convaincue que certains, pendant les entrevues que j'ai faites dans la production de livres, dans le processus d'écriture, c'était un récit qui était très souvent soulevé. C'est que plus clair est ta peau, plus des traits, c'est qu'en anglais, on va dire « fair complexion », plus clair avec des traits. Au Brésil, on parle de traits fins. C'est cette association à des traits d'européanité. Plus facile, c'est pour passer dans un processus de sélection, être associé à quelqu'un de plus calme. Donc, dans un processus décisionnel, si tu es plus affirmatif, si tu vas plus défendre tes idées, plus foncé est ta peau, plus tes traits vont être associés à l'africanité, plus ces traits-là vont être vus comme quelque chose de violent ou quelque chose de méprisable, tandis que si tu es plus clair, ça va être associé à quelque chose d'intelligent, de leadership qui est positif.
Tout à fait. La table est mise, l'introduction est là. Je propose juste qu'on fasse obligation publicitaire, on fait une petite pause et on reprend tout de suite après.
CIBL.
Nous sommes toujours avec Alexandra Devolsky pour son livre Le colorisme, je rappelle, qui est paru aux éditions Anna Kaona à Paris. Elles sont là-bas, ces éditions-là, mais vous pouvez le commander, aller sur, aujourd'hui on dit toutes les plateformes, c'est Amazon qui est la plus connue, ben, je vais hésiter sans publicité, mais bon voilà, c'est là-bas. Donc on comprend que... le colorisme, pour vous, est lié, est un acte politique. C'est un acte politique, c'est ce que vous décrivez beaucoup plus en détail, alors dans la société brésilienne, par exemple, où vous parlez presque d'une volonté de... alors, on va pas utiliser des mots, je ne parlerai pas de volonté génocidaire, mais de volonté d'effacer, ou c'est carrément le mot, bon, génocidaire, par exemple, par rapport aux autochtones, mais aussi quasiment d'effacer tout trait d'africanité, tout bref, d'effacer les Noirs.
Oui, le Brésil, malheureusement, est un pays qui va s'inscrire dans les palmarès des violences envers les communautés noires, il faut se le dire. Le Brésil a une blessure narcissique, je pense, insurmontable, parce que nous sommes le dernier pays en Amérique qui a fait l'abolition de l'esclavage. Mm-hmm. Donc, on a eu l'abolition de l'esclavage en 1888 et la République a été déclarée en 1889. Donc, ce sont deux processus qui vont s'entamer d'une façon concomitante, mais qui indiquent effectivement que la société était mûre, non seulement pour les ouvertures démocratiques, mais aussi pour permettre à la communauté noire d'exister d'une façon humaine. C'est très tardif, soit dit en passant. Mais ce qui est important de le dire aussi, c'est que l'État brésilien, il a institutionnalisé le racisme différemment de l'Afrique du Sud avec l'apartheid ou des États-Unis avec des mesures de ségrégation raciale bien, bien ancrées dans la société. Au Brésil, c'était très nuancé. Et c'est là où cette caractéristique sournoise d'établir, par exemple, le fait que, bon, on permet les mariages interraciaux, ils ne sont pas interdits.
Okay.
Par contre, on va créer certains systèmes, par exemple, d'interdire toute expression de la culture d'origine africaine. Donc, on ne pouvait pas, par exemple, avoir certaines religions des matrices africaines. On ne pourrait pas faire la capoeira, par exemple, que tout le monde connaît, mais elle a été interdite pendant des siècles au Brésil. Mais ce qui est important, c'est qu'il y avait une mission institutionnelle de blanchissement de la population. Donc, pendant la ère Vargas, c'était un président qui a pris le pouvoir au Brésil, le Brésil qui était déjà démocratique à cette époque-là, dans les décennies de 1930. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont établir une série de lois où on interdit l'entrée des Africains au Brésil parce que, ben, on est trop noir. Donc, il faut améliorer. Et regardez, c'était des notions, ce sont des notions institutionnellement établie, écrite, il faut améliorer la race brésilienne. Donc, cette conception éugénique qui est extirpée, retirée, diminuée, la donnée noire au Brésil, c'était une façon de nous faire progresser économiquement et culturellement. Donc, c'est tellement ancré dans la conception brésilienne que nous avons un peintre très célèbre au Brésil qui a fait une... c'est drôle qu'on est dans la radio. Je peux vous envoyer l'image après, Cyril, avec plaisir. Dans cet ouvrage-là, ça montre les efforts des femmes d'avoir des mariages interraciaux parce que la conception qu'il fallait blanchir ses enfants, c'était une manière de survivre dans une société extrêmement violente envers les personnes qui avaient les traits africains. Donc, toute cette institutionnalisation du racisme, les faits qui ont donné des... Écoutez, ça toujours, ça m'hallucine. On a donné pendant des décennies d'aide financière à des Européens pour s'installer au Brésil. Ça veut dire on donnait des subventions pour l'achat des terres. On a donné des subventions pour qu'ils puissent acheter une maison, tandis que les communautés noires qui demandaient des réparations pour les 300 ans d'esclavage n'ont jamais eu un seul sou de réparations avec tous les systèmes d'esclavage. Donc, ce que les communautés noires faisaient au Brésil, on fait notre legs à nos enfants, c'était la pauvreté, parce que pendant des siècles, on était pas des sujets de droit, donc on ne pouvait pas acquérir des terres. On ne pouvait pas être des propriétaires d'une maison. Donc, il y a dans ma province, Mato Grosso, on a des histoires d'horreur où une famille qui s'établissait pendant 2-3 générations dans un terrain après l'abolition, comme ils n'avaient pas de documents qu'ils étaient là, qui étaient leur terre, mais ils venaient des familles blanches qui disaient « Bon, mais vous ça y est, on va vous chasser de là-bas. »
C'est faux, ça rappelle beaucoup de choses. Juste une dernière chose sur laquelle je voudrais vous entendre. Je voudrais qu'on parle de l'introjection. J'ai mis l'introjection, vous parlez du colorisme en interne. Parce qu'on a beaucoup, on parle beaucoup de la relation blanc-noir. Et là, vous mettez le focus, si vous permettez l'expression, sur... comment on vit le colorisme à l'intérieur des populations noires? Parce qu'on a l'impression que, oui, c'est la faute du blanc, mais à l'intérieur même des communautés noires aussi, ce que vous appelez l'intersection. J'aimerais vous entendre là-dessus.
Oui, l'intériorisation, on va dire, permet justement que les notions de colorisme vont aussi régner dans nos rapports dedans de la communauté noire. Ce n'est pas quelque chose qui est de la faute de la communauté noire. Il faut se le dire, le colorisme n'est pas une invention des Noirs. Le colorisme est une invention du colonisateur blanc avec des objectifs économiques très bien établis, il faut se le dire. Mm-hmm. Sauf que quand on essaye d'avoir un travail, quand on essaye de mettre nos enfants dans certaines écoles, quand on essaye, par exemple, de faire percer certaines idées et qu'il y a clairement des barrières en raison de notre phénotype, en raison de notre appartenance ethno-culturelle, ethno-nationale, mais les personnes vont établir aussi des astuces, des stratégies pour survivre, il faut se le dire. Donc, quand on internalise, on va dire, les valeurs du colorisme, malheureusement, on arrive dans une situation dans laquelle on va aussi survaloriser des femmes et des hommes avec des traits de métissage, malgré d'autres personnes aussi noires qui vont avoir des traits d'africanité et qui vont avoir plus de difficultés pour percer dans certains espaces. Et cette internalisation-là qui existe, qui est palpable, qui est existante, elle a donné, par exemple, les motifs ou la raison d'exister d'une chaire de recherche au Brésil qui est spécifique sur la solitude de la femme noire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus la femme noire, ce sont des données brésiliennes, mm-hmm. J'aimerais beaucoup voir cette recherche reproduite au Québec, soit dit en passant, mais au Brésil, on a chiffré ça. Donc, plus des années d'études d'une femme noire elle a, plus de chances elle a de vivre ce qu'on appelle un célibat forcé. Pourquoi? Parce que les hommes noirs qui ont la même quantité des années d'études qu'une femme noire, mais ils vont se chercher au Brésil des compagnies, on va dire, des partenaires blanches, parce que c'est un signe de réussite sociale.
Okay.
Pendant que la femme noire, elle reste dans un célibat forcé. Donc, on a plus de femmes noires avec des années d'études qui n'arrivent pas assez à avoir, par exemple, une famille, avoir des enfants quand elles le veulent, bien évidemment. Ce n'est pas une obligation, mais pour celles qui le veulent, c'est plus difficile étant donné qu'elles sont plus titrées. Et il y a beaucoup de chercheurs qui se sont penchés sur cette idée-là et comment le fait que, justement, le métissage va impacter la vie, bien évidemment, privée, familiale, mais aussi la vie professionnelle, parce que les statistiques ne mentent pas. Plus on a de pigmentation sur la peau, plus on a des traits africains au Brésil, moins est ton salaire, plus petit va être votre revenu annuel. Donc, ce sont des choses qui sont chiffrables et qui sont tributaires de ce système-là.
Mm-hmm. C'est ça, en fait, qui se passe. Mm-hmm. Donc,
et c'est là l'importance que des personnes métisses, parce que, encore une fois, ce que j'emploie, c'est effectivement l'idée de négritude d'Aimé Césaire. Mmh. Donc, on est pluriel. Exact. Cette idée que nous sommes tous égaux, qui est tout un amalgame, c'est très raciste, by the way. Mmh. On est hétérogène. Les personnes doivent pouvoir vivre leur négritude parce que nous sommes pluriels par nature. Mais il faut. Et ça, c'est très important pour moi. Il faut comprendre que dans ce système-là, il y a des facilités, il y a des difficultés en raison du système colonial, en raison de l'historicisation de comment on était évacué de notre humanité. On ne peut pas établir des relations égalitaires, équitables, sans avoir cette compréhension-là, qui nos corps ont été politisés. Oui. Donc, quand tu parles de Shakira, ça vient immédiatement. Quand on parle de femmes brésiliennes, mais tout le monde va penser à Gisèle Bündchen, oui. L'ex-femme de Tom Brady. Mais il faut aller au Brésil pour comprendre que
Alessandra est en face de nous. Donc, Bündchen n'est pas la seule brésilienne. Et Eve, une réaction rapide.
Rapidement, effectivement, pour y passer 2 heures. Alessandra, merci beaucoup. Donc, tu sais, pour moi, là, il est question de toute l'histoire du développement de nos sociétés capitalistes. On est à la base même de tout ça. Donc, ça m'a fait penser aux aborigènes d'Australie, dans toutes les histoires dont, en fait, les colons anglais sont sortis qu'en 1976, je ne sais pas si vous vous rendez compte, puis là aussi, il y avait ces mariages, ce blanchiment de la population. Et j'ai eu la chance d'aller à Zanzibar, donc dans le coin de la Tanzanie, il y a quelques années. Et là aussi, j'ai pu visiter la plaque tournante de l'esclavage en lien avec les pays arabes. Et puis, on sait tout ce qui se passe, tu sais, au niveau des pays arabes, du Maghreb, ce racisme aussi. Puis vraiment en lien avec le colorisme, justement, je pense, tu sais, où il y a toute cette hiérarchisation de la population qui est encore un problème aujourd'hui. Et on reste en territoire africain, on va dire. Donc, effectivement, c'est un sujet qu'on pourrait couvrir peut-être pendant 2 heures la prochaine fois.
On va la rappeler. Je rappelle encore le colorisme, métissage, nuances de couleurs et discrimination. Je ne peux pas finir, excusez-moi, il y a le bruit des feuilles là, avec cette juste ce petit bout là dans la conclusion que notre auteur a ou a dit. Pourquoi est-il si important de comprendre le colorisme parmi tant d'autres questions brûlantes de notre société? Placer la lutte antiraciste au cœur des revendications politiques n'est-il pas suffisant pour promouvoir l'égalité raciale? Malheureusement, non, nous disent les savoirs institutionnalisés, les récits transmis par celles et ceux qui sont formés avant nous et les statistiques qui révèlent les inégalités socio-économiques entre noirs à peau claire et foncée. L'histoire raciale du Brésil est complexe, traversée par des contradictions et des injustices, des nuances et des mobilités. Si nous voulons éliminer toute forme de discrimination de genre, de classe et de race, analysons, même si c'est douloureux, le regard que nous dirigeons vers nous-mêmes dans notre intimité et vers nos frères et sœurs. Et c'est encore plus long que ça, il y a des choses plus intéressantes. Le colorisme, métissage, nuances de couleurs de peau et discrimination d'Alessandra Devulski, ça c'est aux éditions Anacaona. C'est une maison d'édition, Anacaona c'est le nom de l'éditrice,
oui.
Paula. Voilà, qui diffuse vraiment beaucoup d'ouvrages venant de, en fait, des traductions, hein, en fait, parce qu'au début, vous l'avez écrit en portugais,
ouais.
Et puis là, elle l'a traduit, donc allez, et c'est très intéressant. Je vais avouer, même si je suis pas naïf quand même, je vais avouer que bon, voilà, on a cette idée comme ça du Brésil, pays bon, arc-en-ciel, pas comme l'Afrique du Sud, mais c'est le pays, voilà, tout le monde rêve d'aller au Brésil où on se dit, ben non, tout le monde est machin, mais dans la réalité, on le sait, il y a des discriminations, il y a du racisme, mais ce que j'ai aimé découvrir, c'est à l'intérieur même des populations noires, c'est cette, et on va finir avec ça, c'est cette capacité, cette réussite, en fait, des noirs brésiliens d'avoir réussi à constituer
une seule communauté noire,
c'est ça, communauté noire au moment où on voulait les...
C'était une construction historique,
ouais.
Qui, et je dois le dire, il y a des personnes qui ont été clés. On peut parler de Sueli Carneiro, on peut parler de Lélia Gonzalez, on peut parler plus modernement de Jamila Ribeiro. Ce sont des femmes qui, et des hommes aussi, qui ont compris que nous sommes la plus grande communauté noire hors Afrique. Donc, dans une société qui est profondément raciste, il fallait nous mettre ensemble pour valoriser notre négritude et demander notre place dans la société.
Merci beaucoup encore à vous, Alessandra Devulski, d'être venue nous voir. Ben justement, on va se séparer avec cet artiste brésilien que j'aime bien entendre. Il a une voix magnifique et vous allez tout de suite reconnaître. Merci encore à vous et on se dit, qui sait, puisque les Eve et Malia ont dit que ça prenait 2 heures au moins, ben on se voit bientôt encore pour détailler ce livre-là et peut-être d'autres choses dont vous allez nous parler. Merci.
Merci
et bon,
beaucoup.
Merci.
Merci.
Ela é amiga da minha mulher. Pois é.